Alors ce matin, il y a un seul texte. C'est un texte un petit peu long et nous allons le lire en faisant quelques pauses pour que ce récit puisse résonner et que vous puissiez prendre le temps d'y entrer. Il y aura des pauses de silence et puis une pause musicale. Ne soyez pas surpris. Donc s'il s'agit de tout le chapitre 9 de l'Évangile de Jean, qui est le texte de ce jour. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Jésus répondit : Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla. Il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est bien lui ». D'autres disaient « Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais l'aveugle affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Et alors, tes yeux, comment se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». Alors moi, j'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent « Où est-il celui-là » Il répondit « Je n'en sais rien. » On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, les uns disaient « Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ?» Et c'était la division entre eux. Alors ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué les parents, les autorités juives refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Elles posèrent cette question aux parents « Cet homme est-il bien votre fils ?» dont vous prétendez qu'il est né aveugle ? Alors comment voit-il maintenant ? Les parents répondirent « Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment il voit maintenant ? Mais nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand, qu'il s'explique lui-même à son sujet. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Celles-ci étaient déjà convenues d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le ». Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu !» « Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il leur répondit, « Mais je ne sais si c'est un pécheur. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle. Et maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ?» Les pharisiens se mirent à l'injurier, et ils disaient, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « C'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas le faire. » Ils ripostèrent, « Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et il lui dit, « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ?» Et lui de répondre, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » L'homme dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, « C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Je vous invite à vous lever pour que nous chantions le cantique 420, aux strophes 1 et 2, dans les livrets bleus. Oui, Seigneur, nous te demandons de diriger, de sanctifier nos vies. Nous pensons aussi à ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, les jeunes de l'école biblique et puis les catéchumènes. Dirige, sanctifie nos vies et que ta lumière brille en tout temps et que ton évangile nous éclaire. Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas pécheur, mais maintenant vous dites, nous voyons, alors votre péché demeure. Les disciples ont interrogé Jésus pour savoir si l'aveugle de naissance était aveugle à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents. À l'époque, il est courant d'expliquer les infirmités par le péché de la personne ou par celui de ceux qui l'ont précédé. Jésus conteste cela. Être aveugle de naissance, ce n'est pas à cause d'un péché particulier. Être aveugle, si nous lisons bien ce texte que nous avons lu ce matin, être aveugle semble même être la condition de l'homme, j'allais dire l'homme normal, l'homme standard. Il n'y a pas vraiment d'explication très compréhensible à cette cécité de naissance. Et celle que nous donne Jésus, l'explication que nous donne Jésus, ne nous éclaire d'ailleurs pas beaucoup. Elle risque même de nous perdre un peu. Il nous dit que cet homme est aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, nous ne sommes pas très loin de dire que Dieu suscite cette cécité pour ensuite la guérir et pour que ses œuvres soient manifestées. On peut se perdre un peu dans cette voie et passer à côté de l'amour de Dieu. Mais on peut aussi se dire que la raison de l'infirmité de l'homme mendiant, eh bien cette raison nous échappe complètement. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons saisir ou comprendre. Il n'y a pas d'explication que nous puissions recevoir facilement. En revanche, ce que nous pouvons mieux saisir, c'est la raison pour laquelle le péché demeure et la cécité qui va avec. Alors cela nous amène à parler d'abord des pharisiens dans notre texte. Jésus leur dit, « Mais maintenant vous dites, nous voyons, alors votre péché demeure. » Dans les interrogatoires menés par les pharisiens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ne disent pas « nous voyons ». Ils disent souvent « nous savons ». Ils disent « nous savons » alors qu'en réalité, ils ne cessent de demander « comment ?» Comment les yeux de l'homme se sont ouverts ? Quand l'homme mendiant, l'ancien aveugle, répond « je ne sais pas », quand même ses parents répondent « nous ne savons pas », les pharisiens, eux, disent « nous savons que cet homme, Jésus, est pécheur. Et nous savons que Moïse a parlé à Dieu. » Et peut-être de façon sous-entendue, ils disent, nous savons que nous, nous sommes justes et pas vous. Et puis alors, ils se mettent à insulter celui qui a retrouvé la vue. Ils le maudissent, ils disent du mal de lui. Ils affirment qu'il a été engendré tout entier dans ses péchés depuis sa naissance. Alors c'est un savoir qui enferme et qui maudit, qui rabaisse et qui finit par exclure, par jeter dehors. C'est un savoir qui terrorise, qui met sous pression. Allez, réponds, rends gloire à Dieu. C'est un prétendu savoir qui interroge, qui demande des comptes et qui empêche d'être. À l'écouter, ce savoir, l'aveugle-né n'aurait pas d'autre possibilité que de rester aveugle et mendiant, assis, immobile. Et il ne serait notamment pas possible d'opérer une guérison un jour de sabbat. Alors c'est une lecture littéraliste de la loi. C'est ce « nous savons » reformulé en « nous voyons » que Jésus condamne et assimile au péché. Un savoir l'autre, un voir l'autre qui l'enferme, qui le rabaisse au lieu de l'élever. Nous voulons maintenant parler de l'homme que Jésus a guéri. Mais d'abord, nous sommes un peu en peine pour parler de cet homme dans ce texte parce que nous ne connaissons pas son nom. Cet aveugle né qui n'est plus aveugle. L'auteur de ce texte, de ce récit, l'appelle finalement mot à mot, dans le grec, l'auparavant aveugle. Il semble qu'on ne le désignait pas autrement que l'homme aveugle, qui était aussi mendiant. Il s'appelait du nom de son infirmité ou de son statut social, ou bien les deux, l'aveugle, mendiant. Lorsqu'il guérit, les gens du quartier l'amènent chez les pharisiens, comme s'il ne pouvait pas y aller par lui-même. Ils ne l'ont pas entendu lorsqu'il leur a dit « Oui, c'est bien moi ». Ils ne le reconnaissent plus, certains d'entre eux pensaient que c'était quelqu'un d'autre. Ils ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas, admettre que cet homme qui gisait là dans la rue, eh bien maintenant il est là debout devant eux avec un beau sourire, et il est capable d'aller par lui-même. Alors on comprend mieux pourquoi il n'arrive pas, personne de son entourage n'arrive pas à l'entendre dire « Moi, je suis », ce que l'on traduit généralement en français courant « C'est bien moi, oui, c'est bien moi ». Lui, cet homme, celui qui était aveugle, il ne sait pas où est Jésus. Il sait juste ce qui s'est passé, un peu de boue, de salive, un bain dans la piscine de Siloé et ses yeux qui s'ouvrent. Mais les gens ne lui laissent pas le choix et ils l'emmènent chez les experts, les spécialistes, qui sont aussi ceux qui détiennent le pouvoir. Eux, les pharisiens, ils interrogent et ils savent, mais pourtant, ils sont divisés parce qu'il y a incompatibilité entre ce qu'ils savent ou croient savoir et ce qu'ils constatent. Ce qu'ils croient savoir, c'est que cet homme Jésus est pécheur, alors que eux, ils sont justes, car ils sont les disciples de Moïse. Et c'est cela qu'ils croient savoir. Et c'est incompatible avec ce signe incontestable. Cet homme était aveugle et il voit. Ils essayent pourtant de le contester en impliquant les parents de l'aveugle, mais ça ne marche pas. Ils réinterrogent à nouveau l'homme en affirmant encore plus ce qu'ils savent ou croient savoir. Jésus, pécheur, eux, juste, rien à faire. Ils s'obstinent. Non seulement Jésus est pécheur, mais l'aveugle, l'ancien aveugle aussi, depuis sa naissance. Et c'est ce qui explique qu'il était aveugle. Ils savent cela. Et ils ne veulent pas voir que cet homme-là, maintenant, il voit. Et en plus, cet homme-là, un peu naïvement, il les met en difficulté. C'est étonnant que vous ne sachiez pas d'où est ce Jésus. Vous comme moi, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et si ce Jésus est pécheur, alors comment mes yeux se sont-ils ouverts? Là, c'en est trop. L'ancien aveugle, il est jeté dehors. Être enseigné par lui, c'est insupportable. C'est insupportable pour ces spécialistes qui sont convaincus de savoir. Peut-être vous le savez ou vous l'avez déjà remarqué, mais dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de miracles, mais on parle de signes. Jésus accomplit des signes. Dans l'évangile de Jean, il y en a 7 des signes qui sont dans la première partie, dans la première moitié du récit. Le premier d'entre eux, c'est le changement de l'eau en vin lors des noces de Cana. Et le dernier de ces signes, qui est le plus impressionnant, c'est la résurrection de Lazare. Peut-être vous vous souvenez de ce récit. La guérison de l'aveugle est l'avant-dernier signe dans le récit de Jean. Et plus on avance dans son évangile, dans son récit, et plus le signe est fort. Comme si à chaque fois, devant l'incrédulité, il fallait ajouter de l'intensité, de la force, face à l'endurcissement de ceux qui ne parviennent pas à être touchés. Alors dans l'évangile de Jean, et particulièrement dans notre récit, Jésus est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu dans la piscine duquel l'aveugle né et tous les aveugles nés sont conduits pour un baptême de guérison. Un peu de boue, un peu de terre, comme dans le récit de la Genèse avec Adam, et puis un peu de salive, un peu de ce qui constitue de la parole. Et avec ça, Jésus redonne la vue et il redonne la vie. Il recrée, il redynamise. Il redynamise ce qui était assis, immobile, aveugle. Il réhumanise. Ce que l'on croyait savoir doit être remis en question. Même l'ancien aveugle croit savoir des choses. Il a appris probablement sa leçon de catéchisme, lui aussi. Il dit « Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux et fait sa volonté, alors il l'écoute. » Même lui, l'ancien aveugle, il va devoir abandonner la certitude de ce savoir-là et se laisser inviter par un croire. Toi, crois-tu au Fils de l'homme ? Crois-tu en un Dieu qui se révèle en un homme ? Non par une loi impossible à respecter, ou bien sous le contrôle d'experts, de spécialistes qui savent tout et qui prétendent tout expliquer et qui, au passage, enferment tous ceux qui contestent leur propre place, celle qu'ils se sont attribuée. Crois-tu dans cette sorte de surhumanité qui parle de Dieu, mais qui, en définitive, ne fait que vouloir constamment prendre sa place ? L'homme Jésus est venu contester cela, en enseignant et en agissant, en redonnant de la place à ceux qui n'en avaient pas, à ceux qui n'en avaient plus, et il a bousculé tous les équilibres par des signes incontestables. Dans l'évangile de Jean, le signe se voit, se touche, il se concrétise, il n'est pas simplement un discours, il correspond à une réalité concrète. Et ceux qui n'acceptent pas le résultat du signe, qui n'y croient pas, sont comme des voyants qui deviennent aveugles. Et les pharisiens se mettent à douter. Est-ce que nous sommes aveugles par hasard ? C'est parce que vous dites « nous voyons » que le péché demeure en vous. C'est parce que vous dites « nous voyons » qu'en réalité vous êtes aveugles. De même que Lazare ressuscitera, de même l'aveugle voit maintenant, et les pharisiens n'en finissent pas d'être aveuglés. Alors, aujourd'hui, que savons-nous ? Que voyons-nous ? Que croyons-nous ? En qui croyons-nous ? Nous aimerions bien avoir des signes impressionnants, nous aussi. Peut-être avons-nous l'impression d'être dans cette nuit où personne ne peut œuvrer. Cela dit, nous l'avons lu, même du temps de Jésus, ces signes n'étaient pas reconnus par tous. Mais nous aimerions bien tout confier à des gens qui savent, par exemple en politique, c'est encore aujourd'hui un jour de vote. En économie, nous avons entendu que les chiffres du chômage ont encore augmenté. En énergie, nous venons de fêter récemment le triste anniversaire de cette catastrophe de Fukushima. Voilà, je pourrais allonger cette liste, évidemment. Et puis, même en théologie, j'ai envie de dire, entre ceux qui disent que Jésus était Dieu et que ceux qui disent qu'il n'était qu'un homme et rien de plus, voilà, on aimerait bien là avoir un spécialiste qui nous dirait « voilà, c'est ça ». Alors, qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas là de contester tout effort de science, de recherche. Il s'agit simplement de reconnaître les signes de notre cécité, de voir que nous ne voyons pas, de savoir que nous ne savons pas, et de croire que ce n'est pas définitif. Crois-tu au Fils de l'homme ? Demande Jésus à l'ancien aveugle. Qu'est-ce que croire au Fils de l'homme ? Cette expression, le Fils de l'homme, est très répandu dans l'évangile de Jean. Nous trouvons son origine dans la littérature apocalyptique, dans l'Ancien Testament, principalement dans le livre de Daniel. Alors, pour faire simple, on peut dire qu'elle représente un avenir, une espérance, une possibilité de changement, d'évolution, une révélation. Elle représente l'idée que tout n'est pas définitivement bloqué, perdu, absurde, inutile. Elle représente la justice devant l'injustice. Le Fils de l'homme est celui qui redonne la vue à l'aveugle naissant de naissance. Il lui redonne un ciel au-dessus de la tête. Dans notre texte, le Fils de l'homme représente aussi une crise, un jugement qui consiste en ceci. Les non-voyants voient et les voyants deviennent aveugles. C'est-à-dire que ceux qui savent, ceux qui se savent non-voyants voient, et ceux qui disent « nous voyons » ne voient plus. Croire au Fils de l'homme, ce n'est pas croire que nous sommes sous le coup d'une malédiction depuis notre naissance, ou bien croire que nous héritons d'une malédiction plus ancienne qui nous viendrait de nos parents. C'est bien au contraire, s'en croire libéré. Cette libération, cette nouvelle vue que nous avons de notre vie, elle nous fait voir les autres différemment. Elle nous fait agir, elle nous met en route. Cette personne assise là, que nous ne voyions pas, eh bien maintenant nous la voyons. Et nous allons vers elle. Nous lui demandons son nom, nous l'accueillons, et nous nous laissons accueillir par elle. Et si elle est aveugle, infirme, mendiante, elle n'est pas que cela. Parce que le Dieu de Jésus-Christ nous renvoie constamment vers les autres, vers notre prochain, vers l'humain. Et si l'on pense aimer Dieu et ne pas aimer son prochain comme soi-même, alors on se trompe de Dieu, car ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ que nous aimons, c'est un autre Dieu. Peut-être un Dieu qu'on se serait fabriqué, une idole, un fantasme. Peut-être que c'est soi-même même ce Dieu-là. Et c'est bien pour cela que ces deux commandements que nous avons lus tout à l'heure dans notre liturgie sont indissociables. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence et de toute sa force. Et puis, aimer son prochain comme soi-même. Nous savons que nous n'y parvenons pas. Nous savons que nous ne voyons pas notre prochain comme nous sommes appelés à le voir. Mais nous sommes invités à espérer que cela n'est pas définitif. Nous sommes invités à laisser résonner en nous cette question. Crois-tu au Fils de l'homme ? Et nous sommes invités à discerner les signes que cela va produire. Amen.